Bonjour, dans un instant va commencer l'émission Dans mon tiroir. Pendant une heure, c'est vous qui avez le pouvoir grâce au site radio-g.fr. En effet, à tout moment, vous avez la possibilité d'appuyer sur un bouton stop situé sur le site radio-g.fr. Si une chronique vous ennuie ou que vous la trouvez trop longue, stoppez-la de chez vous avec un simple clic. Dans le studio, nous entendrons alors ce jingle. On devra alors changer de sujet. Au contraire, si le sujet est intéressant et que le chroniqueur peut le finir, il aura droit à ça.
C'était vraiment très intéressant.
C'est donc vous qui, dans un instant, allez prendre le pouvoir. Pendant que l'équipe s'installe, rendez-vous de suite sur le site radio-g.fr et cliquez sur le bouton qui vous invite au vote. Vous pouvez aussi aller sur le chat pour parler avec nous, anonymement et simplement pendant l'émission. Nous voyons en direct vos messages. Prêt à prendre le pouvoir, c'est à vous de jouer sur radio-g.fr.
C'était vraiment très intéressant. C'était vraiment très intéressant.
L'équipe de Dans mon tiroir est en train de s'installer. Ils seront bientôt prêts à vous soumettre leur chronique. Ce sera à vous de les juger en direct, voire même de les faire taire.
C'était vraiment très intéressant. C'était vraiment très intéressant.
En attendant le début de l'émission, rendez-vous sur le site radio-g.fr, puis accédez à la page des votes et du chat. A tout de suite.
C'était vraiment très intéressant.
Bonsoir et bienvenue dans mon tiroir, l'émission qui a des choses à vous dire. Par contre, sont-elles toutes intéressantes? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ce soir avec cette émission interactive où vous donnez votre avis de chez vous en temps réel sur le site radio-g.fr. 16e émission en direct déjà. Bonsoir Joe qui réalise cette émission.
Bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Alors, on aura peut-être Sandra et Sonia tout à l'heure peut-être. Qui vont arriver. Et donc, vous, ça y est, tu es sur l'application, ça y est, on va sur radio-g.fr, hein, sur le site, que vous soyez sur tablette, sur ordinateur, sur ce que vous voulez. Vous allez sur le site radio-g.fr et vous avez un petit logo à cliquer et vous allez pouvoir voter en direct. C'est bon? Tout le monde est paré? Yes. Alors, c'est parti, bienvenue au DMT. Alors, Olivier, qu'as-tu trouvé dans ton tiroir?
Eh bien, dans mon tiroir, j'ai trouvé un sablier.
Ah, donc tu veux nous parler de temps?
Le temps qui passe, mais aussi le sablier, le sable. Le sable en rapport avec avec le désert, les dunes.
Ah,
Oh là là, on était de chercher loin.
Tu nous demandes justement de chercher un petit peu de...
Oui, d'accord, ok.
Oui, donc non, dune, c'est capillotracté.
Ah, dune, le film, bah oui, forcément. Oui.
Vous parlez du film Dune. À l'origine, c'est un roman de science-fiction de Frank Herbert qui date quand même de 1965. Donc ça fait quasiment 60 ans.
Aucun de nous était né.
Oh.
Bah non.
Non, c'est vrai.
Ça va, toi? Oh,
alors, jeune. Pour résumer, en gros, pour les néophytes, c'est dans un empire interstellaire, plusieurs maisons s'affrontent pour contrôler la planète Arrakis. La planète Arrakis, c'est une planète désertique où pousse l'épice. L'épice, c'est une substance qui est sécrétée par des vers de sable. Et cette épice, en fait, elle sert à allonger la vie, la durée de la vie, et aussi à pouvoir voyager de manière intergalactique.
D'accord.
Et donc, c'est...
Donc, faut prendre de l'épice.
C'est du carburant aussi?
Oui, c'est du carburant aussi. Oui, c'est du carburant.
Donc, faut prendre de l'épice pour comprendre aussi, parce que si t'en as pas, tu comprends pas, ouais.
Et donc, c'est convoité par plusieurs planètes. Et puis, dans cette planète, vivent les Fremen, qui sont un peu le peuple autochtone de Arrakis. Alors, donc il y a 6 volumes de Frankie Herbert qui ont été complétés par des livres de Byron Herbert, par son fils, qui a repris les notes de son père pour refaire des livres
d'accord.
consécutifs.
Ok.
Alors, pas comme Tolkien.
Ah bon, je sais pas. Oui, son fils a écrit la suite.
Ouais.
D'accord. Ok. Alors, les thèmes abordés, c'est vaste. Il y a écologie, géopolitique, rivalité politique, acquisition et préservation des ressources, beaucoup la religion. Voilà. Alors, c'est un d'abord un roman culte pour plein de générations, et puis il y a eu beaucoup de tentatives d'adaptation au cinéma. Et Samy, beaucoup de gens, c'est un peu une malédiction, c'est un peu maudit comme adaptation. La plupart du temps, les adaptations ont échoué ou se sont pas faites du tout. Mm-hmm. La plus connue, c'est celle de Alejandro Jodorowsky, qui est un réalisateur chilien. Et dans les années 70, il avait réussi. Il avait préparé un film, donc il avait réuni plein d'acteurs. Il avait réuni Salvador Dali, Orson Welles, Mick Jagger et Amanda Lear.
Oh, ça aurait donné. Oh la vache.
Et ah, il avait dessiné plein de croquis. Il avait fait appel aussi à Möbius et H.R. Giger.
Ça, par contre, ça doit être beau.
Et c'est ceux qui sont à l'origine de la création de Blade Runner et d'Alien. Mm-hmm. Et en fait, eh bien, au final, ça va jamais se faire. Et ils vont, leurs travaux, en fait, vont servir à, justement, à Blade Runner et à Alien.
C'est les, d'accord.
Voilà, c'est les prémices de ces films. En musique aussi, il avait réussi à avoir le groupe Pink Floyd qui aurait dû faire la musique. Mais bon, le projet a été avorté, trop de budget, des dépassements imprévus. Il y a un super documentaire qui s'appelle Jodorowsky's Dune, qui est disponible en DVD. Alors, Bruno, je sais, tu l'as vu?
Oui.
Ouais, et c'est très très bien apparemment.
Oui, bah c'est très bien. C'était la folie de ces années-là. Ça aurait été un film psychédélique.
Ouais.
Pas du tout.
Ouais, on est dans les années
60. Très 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 loin de ce que c'est aujourd'hui, même de Lynch.
Alors, il faut attendre justement 1984 pour que David Lynch adapte Dune, donc le premier tome de Dune. Alors, ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait refusé de faire Le Retour du Jedi. Il a préféré faire Dune que de faire Le Retour du Jedi.
Il a eu le nez fin.
Pardon, Bruno?
Ben non, justement.
Ah d'accord, oui.
Okay. Dune n'a pas marché.
Sauf que ça a été un échec commercial immense. Lynch a même pris ses distances avec le film. Il dit qu'il n'a pas eu le final cut, le montage final. Pour lui, le film aurait dû durer 3h30. Et en fait, le distributeur a réduit à peu près 2h. À tel point que dans le générique, quand le film est sorti, quand il y a des versions qui sont sorties, il a refusé d'apparaître dans le film. Et donc, c'était sous le nom d'Adam Smithy. Adam Smithy, c'est toujours, dans tous les films que vous verrez, quand vous verrez Adam Smithy, c'est que le réalisateur réel, il a refusé d'apparaître au générique.
D'accord.
Ah, t'avais fait une chronique d'ailleurs là-dessus.
Oui, je crois, sur le nom.
Ouais.
Et puis même les scénaristes, là, c'est Judas Booth, qui le nom qui fait qu'il existe pas.
Un pseudo. D'accord.
Alors après, on a eu des petites séries, des mini-séries de 3 épisodes. Il y a eu Dune, qui a été fait en 2000. Les Enfants de Dune aussi, en 2003.
Mm-hmm. En plus d'épisodes, là. C'était long. Les Enfants de Dune, c'était très long.
Alors, j'ai trouvé sur Prime, Dune surtout. Mais bon, apparemment, c'est quand même moins bon que les autres.
Ah, c'est un téléfilm, hein. C'est pas du cinéma. Ouais.
Alors tout ça pour dire que Denis Villeneuve, donc il a ressorti, il a réadapté Dune. Denis Villeneuve, c'est un réalisateur québécois, donc il a tourné en 2021, juste après le Covid, on a eu Dune, la première partie, qui a un petit peu, c'est à peu près l'histoire du trois quarts du film de Lynch. Voilà. Et puis en 2024, là, donc le 28 février, est sorti Dune 2.
J'aurais pu l'appeler juste Dune, mais bon.
Dune.
Dune et deux.
Et Dune.
Après.
Oui, moi j'aurais dit Dune, oui.
Alors comment vous dire, moi j'ai été vu ce week-end, j'ai vu les deux à la suite. Je me suis tapé 6 heures de film, parce que ça dure quand même 2h30.
Il y a une pause quand même 2h40,
avec une pause un entracte, de 20 minutes.
Oh, seulement 20 minutes.
Oui, et en VO.
Juste un bébé, quoi.
Alors, allez le voir en VO, parce que c'est important. Alors j'avais vu il y a 3 ans, j'avais pas trop aimé, mais là en VO, quand même, c'est quand même pas mal. Et le 2 est juste incroyable. Déjà, moi je vais souvent voir ce soir au ciné. C'est la première fois que je vois un film à 4,6 sur 5 pour les spectateurs.
Oh, pour halluciner, c'est pas mal.
Ouais, pour halluciner, c'est quand même pas mal. Et franchement, ça vaut le coup. Alors déjà, faut savoir qu'il a tourné au format IMAX de Denis Villeneuve. Donc là, si vous allez voir ce film, allez le voir sur un grand écran, s'il vous plaît, avec un son que j'ai vu aussi en Dolby Atmos. Enfin, j'avais tout. Hein. J'ai vu, pour être franc, à La Roche-sur-Yon, c'est une nouvelle salle. C'était vraiment extraordinaire. Les images sont, il y a des plans splendides. Hein. Ça a été tourné notamment en Jordanie, dans les Émirats Arabes Unis. Donc, autant dans le premier, on sentait que voilà, le désert était pas terrible, on n'y croyait pas trop. Autant là, il y a des superbes plans. On a même chaud au cinéma parce qu'on s'y croirait. Ah oui, si, c'est très, très, très impressionnant. Donc, les images splendides, la musique Hans Zimmer, donc là, il s'est surpassé, extraordinaire musique. Le casting, aucune faute. Donc, Timothée Chalamet, bien sûr.
Et toi aussi, Timothée?
Non, c'est lui, Timothée.
Accompagné de, alors, ni plus ni moins que Zendaya. Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Léa Seydoux. C'est un petit peu le bémol, là. J'aime pas cette.
Allez, hop, ça, c'est la
française.
Ah oui, mais malheureusement.
Allez, Edwin.
Oh. Je joue toujours le même rôle, inexpressif. J'aime pas trop. Charlotte Rampling, super.
Ouais.
Florence Pugh. Et puis Austin Butler, qui avait joué notamment Elvis, la biographie de Elvis Presley, qui est extraordinaire dans le film. Il y a quelques scènes qui m'ont marqué. Il y a tout d'abord, alors, dans Dune, il y a des vers, mais c'est pas des petits vers à peine terre de terre, c'est des vers géants qui font genre 700 mètres de longueur et qui sont aussi gros qu'une baleine, même plus gros qu'une baleine. Et en fait, l'idée, c'est qu'on les Fremen, le peuple autochtone de Arrakis, y chevauchent ces
vers.
Ces vers, et puis après, voilà, ils font comme du cheval et voilà.
Mm-hmm.
Et donc, il y a la scène où Timothée Chalamet
doit dompter un verre.
Et ça dure pendant 10 minutes et c'est assez impressionnant.
D'accord.
Je ne savais même pas comment ils ont pu tourner un truc comme ça. Parce qu'en fait, il y a très peu d'images. Enfin, il y a des images de synthèse forcément, mais c'est quand même assez, assez réaliste.
Ah, mais tu sais pas, ils ont utilisé des vrais verres géants de 700 mètres.
Bien sûr.
Ouais, c'était galère.
Bah oui. Je ne sais avec pas. Avec tout le compost qu'il y a maintenant, tu sais, on en a. Hein,
exactement.
En fait, il se met sur une grosse dune, puis après, le verre donc, arrive. Donc, il casse la dune en deux.
Et nous spoile pas.
L'idée, c'est de sauter sur le verre quand il
traverse. Il nous fait un tuto. Voilà. Il explique comment
sauter un verre.
Et oui, parce que si vous, nous, les auditeurs, vous voulez sauter sur un verre de 700 mètres de long,
d'ailleurs, le grand débat actuellement des fans, c'est de savoir comment on descend du verre.
Du verre. Pas mal.
Et donc, Denis Villeneuve nous a expliqué qu'il le dirait dans le.
Ça en rappelle. Dans le volume 3. Ils ont des cordes de partout, de toute façon.
Oui. Je pense que ça en rappelle.
D'accord.
Donc on est sûr qu'il y aura Dune 3, parce que vu le succès du film, là, ça fait plus d'un million de spectateurs en une semaine. Là, on est sûr d'avoir une suite. L'histoire est très forte. D'abord, on voit vraiment cette réflexion sur la religion, sur le fanatisme, et le terme djihad même est même évoqué dans le film, c'est un petit peu sur la guerre sainte. On regarde comment une prophétie peut aboutir à... Parce qu'on pense que telle personne est un messie.
Et au fanatisme.
Et au fanatisme.
Qui va avec,
ouais. Et on voit aussi bien les fanatismes qui croient qu'ils sont vraiment bernés, qui croient tout, et aussi ceux qui sont contre le fanatisme, qui se mettent à l'écart.
Donc même les gentils ne sont pas forcément gentils, en fait, oui. C'est ça que tu veux dire.
En fait,
c'est pas un schéma manichéen, très bien.
Non, pas trop. Et justement, le Paul Atreides, là, que j'ai parti Timothée Chalamet, c'est vraiment sa transformation en messie, en surhomme, en dieu vivant. Et ce qui est impressionnant, c'est que c'est rare de voir quelqu'un, enfin un acteur qui évolue vraiment entre Dune 1 et Dune 2. Il est un peu plus viril, mais ça, sur son jeu, on voit qu'il a plus d'assurance.
Mm-hmm. Il y a une scène finale. Parce que t'es fan de lui.
Les scènes où. Enfin, je vous dis pas, mais la fin est assez.
Non, il a envie.
J'ai envie.
Non, c'est encore au cinéma, on va attendre un peu quand même.
Puis après, moi, le seul bémol que j'ai, c'est. Alors, il y a toute une histoire sur les Ben Gesserit. Les Ben Gesserit, en fait, ce sont des femmes qui sont entre elles, mais.
Des religieuses.
Un peu des religieuses, mais qui sont un peu en coulisses du pouvoir. C'est elles qui dirigent un peu cet empire interstellaire. Alors, ça fait un peu théorie du complot. Ou dire il y a toujours des gens qui dirigent le monde et voilà, il y en a pas au courant.
Ça fait partie du livre, hein, donc.
Oui, ça fait partie du livre, quoi. Oui. Mais voilà, et là, c'est très bien fait aussi. Et puis, ouais, moi, c'est un gros coup de cœur. Je m'attendais pas. Je pensais que ça me.
Oui.
C'est vraiment.
On va ouvrir la porte à Soso.
Donc, je vous le conseille. Allez voir quand même le 1 avant. Ça, c'est clair. Après, faut connaître un peu l'histoire quand même, parce que c'est quand même. Il y a des trucs qui sont
pas évidents. Ah, même avant de voir le 1, pour toi, il faut.
Ah oui, non, bah, si vous voyez pas le 1 avant le 2, c'est pas la peine.
Non, je veux dire, pour regarder le 1, il faut connaître un petit peu l'univers. Ouais. Tu vois, moi, ça m'attire parce que j'aime bien ce genre d'univers. Mais comme c'est de la science-fiction, c'est très riche. Il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de situations même politiques, etc., religieuses, comme tu disais. Et ça me fait un tout petit peu peur de me dire, est-ce que je vais pas juste être complètement paumé dans toutes les informations qu'on va nous balancer à la gueule? J'ai un petit peu peur de ça. Alors qu'il paraît que c'est génial, vraiment. Mais...
Moi, je sais que j'ai vu le 1. Le 1, j'avais rien compris quand je l'ai vu. Hein. Donc maintenant, je suis habitué quand j'ai vu l'adaptation. Mais il y a des histoires, surtout avec les Ben Gesserit, l'histoire de la boîte, tout ça. On comprend pas trop ce qu'elles sont au final.
Elles essayent de savoir si c'est lui le méchant. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails. On va pas rester. Bon, apparemment, soit tu as endormi complètement les auditeurs et ils ont pas fait stop, ou soit tu les as passionnés. En tout cas, t'es à 100%. Donc c'est
soit on n'a pas d'auditeurs.
C'était vraiment très intéressant.
mais non.
Allez, on va continuer avec Sandra. Bonsoir, Sandra.
Bonsoir. Donc, écoutez, attendez, j'arrive.
Elle cherche son téléphone, le texte et tout.
Exactement. On pense bien être en face du micro. Je veux le booster.
Alors, on y va. Sandra, qu'est-ce que tu as vu dans ton tiroir? Déjà.
Dans mon tiroir, j'ai tout simplement, au mois de février, c'était vous savez, l'an chinois, quoi.
Le nouvel an chinois. Ouais, vous, chinois, quoi, ouais, ouais. Yo, Ziva. Oh, qu'est-ce qu'elle a ce soir? Voilà. Oui, et c'est l'année du dragon, c'est ça, cette année?
Et c'était l'année du dragon. Et dans mon tiroir, j'ai trouvé un petit chat porte-bonheur. Oh, voilà. Oh,
quel rapport avec le dragon?
Parce que c'est un chat chinois.
C'est un chat chinois.
Parce qu'on est à la radio, tu peux pas vraiment le voir, mais en fait, elle nous a sorti un beau.
Un chat chinois.
Un petit chat.
Pas un chat chinois.
Alors, oui, avec du violet, avec tout ça. Enfin, pas faute de goût du tout, hein.
C'est ça. Oui. Pas faute de goût. Normalement, d'ailleurs, c'est pas violet, parce que j'ai une tirelire aussi, qui vient du Japon, mais.
D'accord.
Qui est effectivement dans le bon goût, j'allais dire.
Mais alors celui-là, il a une boule de cristal d'un côté, il a un panier de l'autre, et il a des paillettes dans tous les sens, c'est
un
magnifique.
Un peu comme les petits chats qui font...
Oui, les petits chats qui bougent. Qui
la patte.
Et donc?
Et donc, du coup, voilà, dans mon tiroir, j'ai trouvé ce porte-bonheur japonais qui représente un chat, voilà, avec une petite boule de cristal, comme vous voyez. Mais voilà, j'ai aussi la tirelire qui provient directement du Japon.
Est-ce que les chats portent bonheur, généralement, là-bas?
Les chats portent bonheur au Japon, mais aussi maintenant, en fait, c'est devenu un symbole international, en fait, de chance, en fait.
D'accord.
Et en Chine aussi.
Ok. Voilà.
Donc, on appelle ça le Fortune Cat ou le Maneki Neko. Donc, il trouve son origine dans le sanctuaire Gotokuji à Tokyo.
Okay.
Et la légende dit que, en fait, le chat d'un moine sauva un voyageur égaré sous une tempête pour remercier le voyageur. Donna ses richesses et ses terres au temple Gotokuji. Je ne sais pas si je le dis bien. On représenta alors le chat, celui-là, avec une patte levée pour saluer le voyageur qui avait donné les richesses. Et on en fit, du coup, une icône de la providence et de la chance.
D'où tous les petits chats, comme disait Bélier, qui bougent avec le petit aimant, là, et qui en permanence, on voit la main qui fait coucou.
Vous en avez, non, vous n'en avez pas?
Non, mais on en voit beaucoup dans les magasins.
Oui. Goût, du coup,
dans tous les magasins japonais ou chinois.
Non, mais c'est vrai que ça reste un symbole de fortune, de chance.
Donc, les couleurs et la position de la patte du chat ont différentes significations. Alors, déjà, normalement, effectivement, là, il est violet. Bon, je l'avais trouvé. Mais, normalement, il est rouge et blanc et doré.
D'accord.
Donc, le blanc représente la pureté, le doré représente la richesse et le blanc représente,
le rouge,
attire la chance en affaires.
OK.
Quand la patte est levée, elle attire la prospérité. Et la patte baissée, c'est celle-ci en
l'autre,
fait,
ouais. L'autre,
elle protège la maison.
Ok.
Donc la patte gauche, elle attire les clients. Voilà, c'est
pour ça.
Pour ça,
faut la mettre dans les magasins.
Et en fait, parce que vous en avez différentes, il y a la patte gauche qui peut être levée, mais des fois il y a la patte droite qui peut être levée. Donc il y a d'un côté, ça apporte les clients, et de l'autre côté, ça apporte la fortune. Bon, j'allais dire que c'est quasiment pareil, parce qu'on a des clients, a priori, dans la fortune, mais bon.
D'accord.
Donc, et certains ont, les soi-disant, les deux pattes levées. Voilà. Donc.
Voilà. Coucou, tout va bien.
Alors, j'allais dire, si vous n'avez pas de place pour adopter un chat, adoptez au moins le chat de la fortune.
Oui, bah oui, tant qu'à faire. Qui bouge tout seul.
Alors, je voulais dire, dans le même concept. En fait, qui est très à la mode en ce moment, c'est le Daruma. Vous connaissez?
Non.
Le Daruma, alors c'est une figurine toute ronde en papier mâché. On l'en voit plein dans les librairies et tout ça.
Ah ouais?
Oui. Et qui représente un moine bouddhiste. C'est rond, un peu pareil, un petit et rond.
Ouais.
Et donc, il y a un œil, il y a les deux yeux là qui sont représentés. Non,
non, ils bougent.
Et en fait, ils sont blancs et en fait, il faut dessiner l'œil gauche quand on exprime son vœu.
Ah oui, d'accord, on voit des images un peu ça.
Et quand on réalise son vœu, en fait, on dessine l'œil droit, tout simplement.
D'accord.
Voilà.
Oh,
ça s'appelle le Daruma.
Non,
tu ne vois pas?
Non, d'accord. Non, je ne connaissais pas le Daruma.
Oui, c'est ça, ouais.
Ok. Très bien.
Voilà.
Moi, je connaissais Dazuma, mais.
Oui, c'est ça, ouais, le restaurant. Eh ben, c'était intéressant.
C'est vraiment très intéressant.
Joe, on parle de quoi?
Alors, moi, dans mon tiroir, j'ai retrouvé un billet de train.
Ah.
Eh. Et ça m'a fait penser. Un film.
Un bullet train, train spotting.
Est-ce que non. Une vie, ça vous dit quelque chose avec Anthony Hopkins?
Oui, je l'ai vu hier.
Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Juste, j'ai d'armes comme ça.
Une fontaine de larmes.
Je suis comme toi. Sommes deux sensibles et effectivement, j'ai chialé mes grands morts devant ce magnifique film. Alors, pour information, c'est un film britannique tiré de l'ouvrage If It's Not Impossible, The Life of Sir Nicholas Winton. Ça a été écrit à l'époque par Barbara Winton, qui raconte la vie de son père, Nicholas Winton. Alors, pour vous faire un bref résumé, donc le film, il va être sur ce personnage qui a joué, je sais pas comment dire. En fait, il est beaucoup appelé le Schindler britannique, la liste de Schindler, vous voyez tous.
Oui.
Et ben, il a eu un petit peu le même rôle, mais du côté britannique. C'est-à-dire que à l'époque, on est en 1938, et Nicholas Winton, c'est un agent de change londonien. Et il y a un moment, il doit se rendre en Tchécoslovaquie après les accords de Munich, où la situation là-bas est dégueulasse.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'il y a énormément de réfugiés, de personnes qui ont peur que d'un coup, à Prague, les Allemands rentrent dans la ville et évidemment foutent le bordel. Lui qui vient d'un milieu assez bourgeois, qui vient de sa petite banque de Londres, etc., il est horrifié par les conditions de vie des personnes qui sont là-bas, alors surtout les enfants, parce qu'il y a énormément de réfugiés qui sont là avec des enfants, il y a des morts dans les camps, et pourtant il y a beaucoup de gens qui essaient de les aider, mais c'est malheureusement pas suffisant. Ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va se débrouiller pour trouver des solutions pour que ses enfants soient sauvés. Alors la plupart du temps, c'est des enfants juifs aussi, évidemment, et il va organiser des collectes de dons, il va essayer de trouver des familles en Bretagne, j'allais dire, en Angleterre, pour que les enfants soient mis dans des familles d'accueil, le temps que tout se tasse un petit peu, et que les enfants ne soient pas tués directement.
Le rapport avec le train, parce que tu me parles du train au départ.
Eh ben alors, c'est pour ça que... À chaque fois qu'on essaie de mettre un truc original dans le tiroir, tu essaies de faire ça.
Ouais.
En fait, c'est beaucoup lié au train parce que il va réussir à organiser des voyages en train, parce que c'est pas possible autrement, pour que les enfants aillent de Tchécoslovaquie jusqu'en Angleterre.
Ah oui, c'est pas évident.
Non, c'est pas évident du tout, sachant qu'il passe par des lieux très dangereux où il y a beaucoup de checkpoints, de points de vérification par les Allemands.
Oui. Et il va réussir à les extraire en fait.
Bah en fait c'est ça. Lui son but c'est de les sortir de Prague pour éviter qu'ils soient tués ou emmenés dans les camps si les soldats rentrent. En fait c'est constamment une course contre la montre. Parce qu'on sait la situation à ce moment-là, donc on est en 1938-39. Ouais,
c'est ça, ça se passe juste avant le début de la guerre.
Voilà, c'est ça.
D'accord, c'est pas déclenché encore.
On sait encore que circuler. Les Allemands peuvent arriver à n'importe quel moment. Les frontières sont encore ouvertes, mais ils peuvent arriver à n'importe quel moment. Donc, tous ceux qui peuvent sauver, ce sera du bonus. Donc, il va faire son maximum pour essayer de se dépatouiller dans la paperasse, surtout parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens en Angleterre qui vont dire... Bah oui, mais enfin, nous, ça nous regarde pas les pauvres gamins de Prague. Il va essayer de contacter des médias pour faire donc, comme je disais, des collectes de dons pour essayer de payer les billets de train, mais aussi les visas parce que ça, c'était pas toujours évident. Je crois que ça coûtait 50 livres.
C'est ça.
Oui, tu l'as vu récemment. Donc. Donc ça coûtait 50 livres par enfant, donc ce qui était une somme quand même à trouver.
Alors pas trop de détails parce que là déjà on a eu Dune, machin. On va faire une émission de cinéma. Est-ce que t'as une petite anecdote ou quelque chose autour du film qui donne envie d'y aller?
Ce qui est intéressant surtout, c'est que en fait l'histoire en soi est connue, mais ce qui est intéressant, c'était juste pour la partie émotionnelle. Donc en fait, je vous disais que c'était joué par Anthony Hopkins, mais il joue ce personnage-là plus vieux, c'est-à-dire que plus vieux Anthony Hopkins est un vieux monsieur qui chez lui retrouve une mallette où dedans il y a un album photo avec les photos de ses enfants. Il va le montrer à une historienne qui va le regarder, qui va dire waouh, ça c'est donc les 8 enfants que vous avez sauvés. Il fait non, j'en ai sauvé un petit peu plus. Ah d'accord. Et donc du coup elle regarde les photos et elle voit qu'il y a beaucoup de photos et elle lui dit mais attendez, vous avez sauvé combien d'enfants? 669.
D'accord.
Donc il y a 669 enfants qui ont été sauvés par cet homme-là qui ne devait rien à personne, mais qui s'est débrouillé pour les sauver de la mort qui les attendait. Donc au final, ce qui est surtout intéressant, c'est que plus tard il va être approché par l'émission That's Life sur la BBC où il va parler de ce qu'il a fait et il se trouve que sur cette émission-là, il y avait une personne qui l'avait sauvé, qui était à l'époque une enfant, mais qui était une personne. C'était une vieille femme et la production lui avait pas dit. Elle lui dit à côté de vous il y a alors je sais plus le nom de la personne que vous avez sauvée et qui aimerait vous remercier. Et donc il y a beaucoup de larmes, etc.
Ça c'est dans le film aussi.
C'est dans le film aussi. Et il y a une deuxième émission où il le réinvite. Il parle de toute cette histoire là. Et à la fin il demande juste.
Ah, spoil pas la fin.
Bah,
Alors, ouais, vous avez pas besoin de mettre.
Là, en l'occurrence, dit, dans la bande annonce, on voit tout.
Alors, c'est dans la bande annonce, et puis, enfin, c'est une histoire connue, quoi. Enfin,
minimum, mais. Je connaissais pas.
Okay. Bon, ouais. Bah, voilà.
Mais alors, pourquoi vous l'avez vu là pas longtemps, tous les deux?
Il est sorti récemment en France, mais il a été présenté dans des festivals en 2023, en septembre.
D'accord.
Donc, je pense qu'il vient de sortir en France, mais voilà.
Il n'est pas beaucoup distribué, du coup.
Ah, il marche. Non,
il marche bien. Le film est vraiment génial. C'est pas un petit film avec Anthony Hopkins déjà, et vraiment le film est très touchant, il est très prenant, et vraiment je vous conseille d'aller le voir parce qu'il est vraiment
ouais. Bon, et ça s'appelle
historiquement
une vie.
C'est une vie, voilà. One Life en VO.
Et puis est-ce qu'il ressemble à la liste de Schindler au niveau
alors c'est moins c'est pas pareil. Oui, mais alors c'est un film qui a été réalisé là dans les années modernes, ouais. C'est pas du tout la même chose que Schindler, mais oui, effectivement t'as des émotions limite, en fait. On s'était fait la réflexion avec ma copine, ils auraient pu me tirer plus de larmes. Vraiment, il y avait moyen de vraiment.
Mais ils sont pas allés dans le pathos.
Non, et ça finit bien. C'est pas sombre, bon. C'est, bah voilà.
Donc c'est ça qui est bien, ce qu'ils ont tout en retenu.
Oui, par contre, lui, il y a une modestie.
C'est extraordinaire.
Sur le personnage, voilà, on a deux films à voir. Voilà, c'est parfait. Bienvenue dans l'émission de cinéma.
On va c'est changer. Les vacances, il faut en profiter.
Attends, tu veux pas que je parle de jeux vidéo?
Non,
tu veux pas
que je parle de jeux vidéo? J'ai rien dit.
C'était trop.
Mais bon, on va changer de sujet. Vous allez voir, avec une voix que vous avez
c'était
peut-être entendue.
C'était vraiment très intéressant.
Oui, t'as raison de te mettre en intéressant. Et on va changer de sujet avec une voix que vous n'avez pas entendue depuis très longtemps, sur Radio G. Bonsoir Sonia.
Bonsoir.
Oh, ça me fait plaisir de te entendre sur Radio G.
Je vous avais manqué.
Bah oui.
Vous m'aviez manqué. Aussi.
Bah oui, tout à fait.
Mais en même temps, personne ne me connaît ici dans cette émission.
C'est vrai.
Je suis une petite nouvelle.
C'est vrai, ça fait longtemps. Et du coup, en fait, Sonia, elle faisait une chronique où il y avait pas mal de musique, où il y avait des jeux, etc. Ah. Et du coup, elle est venue ce soir également avec pour nous faire jouer un tout petit peu et puis nous parler de choses. Qu'est-ce qu'elle a trouvé dans son tiroir, Sonia?
Eh bien, dans mon tiroir, j'ai retrouvé un vieux 45 tours, devinez de qui?
Nana Mouskouri.
Pas loin. Michel Thor.
Ah bah oui, Michel Thor, évidemment.
Mais j'ai aussi Nana Mouskouri.
Aussi, très bien.
Et bien, effectivement, ça m'a rappelé que cette année, quand même, c'est les 40 ans du Top 50.
Ah oui, c'est vrai.
Et il y avait quand même une émission spéciale sur M6.
Oui.
Sur
Canal+ ou sur...
Non, mais là, récemment.
Ah oui, c'est vrai, il y avait une émission spéciale sur M6 le soir, oui.
Voilà.
Ouais, c'est vrai.
Alors, le top 50, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est pour les plus anciens? Peut-être qu'il y en a ça, à qui ça ne parle pas. Donc, c'est un hit parade à l'initiative de Philippe Gildas, qui était...
Ah, c'est lui qui était au départ de ça. Ok.
Qui a été longtemps animateur sur Canal+. Et donc, le principe, base, ce qu'on va dire, était simple, c'était, on compte les 10 que les plus vendus à l'époque et on présente le classement dans une émission de télévision. Donc de 84 jusqu'en 93, il y a eu 462 émissions du top 50. Et avant ce classement, en fait, chaque radio en allait de son propre classement et en profitait pour mettre en avant les hardis qu'ils pouvaient eux-mêmes produire. Donc la première émission top 50 a débarqué en 84 sur Europe 1. Elle était animée par Yann Egan et ensuite sur le Canal+, avec le très connu
Marc
Toesca et avec ce fameux générique.
Ah, le générique. Ah oui.
Marc Toesca, donc amusé par le jeu du mot phonétique sur son nom, en a fait une marque de fabrique. Et donc, il commençait toujours l'émission avec « Salut les petits clous », en référence...
Ah, Marc Toesca. Marc Toesca, donc les petits clous.
Les petits clous.
Ça vient de moi, ça.
Alors, mais j'avais pas capté, moi, initialement.
C'est vrai, Marc.
Comme les petits clous.
Les petits clous, c'est pour Marteau.
Bon, ok. Donc aujourd'hui, le classement n'est plus uniquement sur les ventes, mais aussi sur le streaming. Et donc, on le découvre entre autres sur MCM et sur Internet sur purecharts.fr. Effectivement, on peut retrouver.
Donc, ça revit encore un petit peu.
D'une certaine façon, ouais. Voilà, on peut suivre un peu les meilleures ventes. Je vous propose de jouer avec.
Ah, voilà.
Bah oui, ça vous manquait.
Ça nous manquait.
Un petit jeu.
Ce qui était bien, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas YouTube, tout ça. Donc, en fait,
on voyait les clips.
Ouais. Quand on n'avait pas MTV, tout ça, on voyait les clips.
On les voyait monter, descendre.
Ouais, ouais.
Tiens, qu'est-ce qui est premier aujourd'hui?
Moi, j'étais fan à 100%. J'achetais même les magazines.
Bah, on était,
top 50, avec pour voir.
Et puis, tous les samedis soirs, je regardais Marc Toesca.
C'était le samedi soir?
Oui.
D'accord, sur Canal.
En clair, sur Canal.
En clair. Allez, donc on va faire un petit jeu avec les plus grands succès de vente qu'on a pu retrouver dans l'émission.
Ouais.
Alors, à vous de découvrir.
On va commencer avec quoi alors ?
On va commencer avec l'année.
Les années, combien ?
1984. Et ce tube est resté 9 semaines en tête du top 50.
Ah ! Ah, c'est le premier.
Besoin de rien, ah. Envie de toi. Comme jamais envie de personne.
C'est Peter Sloan. C'est ça ?
C'est ça, Peter Sloan. Besoin de rien, envie de toi.
Et donc, c'est le premier qui a été premier numéro 1 au top 50.
Le premier à être premier.
Premier. Le premier à être premier, en fait. Et pendant 9 semaines.
9 semaines en 84.
D'accord.
Moi, je m'en souviens vachement. J'étais gamine, mais je me souviens chanter devant la télé. Besoin de rien, envie de toi. Je ne devais pas comprendre ce que je chantais, mais j'étais à fond déjà.
D'accord. Pas mal, pas mal.
Alors.
Ensuite.
Dans les années 80, toujours, on tient un record de 13 semaines numéro 1.
Ah, alors
est-ce que vous avez une petite idée ? Années 80.
Oh, un Goldman.
Il y a eu licence 4.
C'est français ou anglais ?
Non.
Mais oui.
T'as dit quoi ?
Licence 4.
Licence 4. Non, mais ce tube, improbable.
Attends,
quand même.
Et avant, il y en avait un autre aussi.
Et voilà, il y en a eu deux.
Il y en a eu deux.
Et donc, et le deuxième, on l'entend toujours dans les soirées. On danse toujours dessus. Qui est ça ? Qui est ça ? Qui est ça ?
Ah, les démons de minuit.
Ouais. Ouais.
Et donc, on peut se remettre un petit coup aussi. Donc, viens de boire un petit coup à la maison.
Licence 4, quand même.
On va à licence 4. Allez, un petit coup de licence 4. Donc ça, c'est
13 semaines numéro 1.
Ah, quand même. Donc ça, c'est les années 90.
On avait bon goût quand même, parce que ça veut dire tout ça, tout le monde les achetait, ces disques. C'est
très,
ça,
très bon goût.
Il y a souvent eu des doubles quand même, numéro 1. La Zubida, le lavabo.
C'est vrai.
Il me semble que j'avais entendu que le clip de ça, qu'on pouvait plus le voir.
Ah oui, parce qu'ils boivent de l'alcool et tout.
Ah oui, possible aussi.
Alors ensuite, les années...
Alors on va passer aux années 90, et là on va monter au niveau des semaines au top numéro 1. Là on va passer à 20 semaines, on monte d'un cran.
20 semaines, alors qui en 80... Des années 90 ?
Années 90.
Français ou anglais ?
Alors, c'est français.
C'est français.
C'est classe ou c'est daube ?
Bah ça dépend d'où on se place. Oui, moi, à l'époque, c'était plutôt estival, donc on va partir plutôt sur un été.
Ah.
En tout cas, c'était une chanson que... À quoi tu penses ?
Danse...
C'est la lambada, oui. Alors non, mais pour autant, c'est le nom d'une danse également.
Ah,
la Alors, c'est pas ça. La
Macarena.
Non, une autre danse encore.
Le mambo.
Non. Oh, mais oui,
ah, oui. Le mambo.
Mambo number one avec Lou Béga. Je sais pas si vous
souvenez
de ça.
Number five.
Oui. Number five.
Non, number five.
Non, mais oui.
On écoute. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. Ah, très bien, très
donc
bien.
Moi, je me souviens de danser là-dessus, été 99.
C'est vrai.
Donc 20 semaines record.
C'était comment la Corée, quand même.
Il n'y avait pas.
La Macarena, je vois.
Il n'y avait pas de Corée, mais c'était le nom de la chanson Mambo Number 5, mais ça dansait et c'était. Enfin, voilà, je me souviens.
D'accord.
Allez, maintenant, on va passer aux années 2000. Bon, on est redescendu un peu, 17 semaines, c'est quand même pas mal.
Alors, en 2000, Goldman encore, non ? Toujours pas ?
Alors, toujours pas là, on est plutôt. Allez, je vous aide, comédie musicale.
Ah, bah oui.
Ah,
Belle, ouais.
Notre-Dame de Paris ?
Oui.
Non. Il y en a eu une autre.
Soleil. Roméo et Juliette.
Quelle horreur.
Ah, si.
Allez, on les écoute.
Oh. Ah, oui.
Alors, il y a Damien Sargue dedans aussi.
Alors, il y avait Philippe Davila, Damien Sargue et Grégory Baquet. Bon, moi, j'étais plutôt les 10 commandements.
Alors, Damien Sargue, maintenant,
On en a vu un paquet de comédies musicales.
Et alors ?
Et je confirme, c'est la meilleure que j'ai vue.
Merci.
Non, mais Bruno. Je parle de Roméo et Juliette.
Tu parlais des 10
commandements, moins bien. Et Damien Sargue, maintenant, il est dans Notre-Dame de Paris.
Ah bon ?
Oui.
Ah, d'accord.
C'est lui qui a repris là-bas. Alors,
dans les années 2010. Ah oui, pardon.
Qu'est-ce qu'il y a dans les années 2010?
Eh bien, dans les années 2010, on arrive à 22 semaines au top. Donc ouais. Là, on passe un cap, là, quand même. Et alors, qui?
Français ou anglais? Toujours français.
Alors là, on est plutôt américain.
Américain. Madonna ou un truc comme ça.
Oui, il y a un truc.
Américain, années 2010, pardon.
Il y a un truc qui a duré très, très longtemps.
Une BO.
Ah, oui. Whitney Houston?
2010.
Ah, bah, pardon.
On a commencé à faire les frites. Une BO, et j'avoue que, alors, c'est un couple qui, enfin, c'est un duo, pardon. Pas
2010. C'est vrai que c'est récent, 2010, en fait.
Quel film?
Johnny Hallyday et Lara Fabian.
Un B.
La La Land, c'était quand La La Land?
Ah, le truc.
Non.
Ghost? Non, 2010.
Non, 2010, on est plus récent. Un homme, une femme, et ça chante.
Une comédie musicale, là.
Ouais, comédie musicale.
C'est pas une comédie musicale, non, c'est la BO d'un film.
Quel type de film?
Film d'amour?
Non, mais c'est un acteur.
Alors, il y a de l'amour, il y a un Bradley Cooper.
Ah, bah, la Gaga.
Ah, oui, il y a une Gaga.
Et il y a une Gaga.
Shallow.
Je veux pas casser l'ambulance, mais A Star Is Born, c'est 2018, hein, c'est pas 2010.
Bah,
non,
si,
dans les années
2010.
2010.
Ah, 2010. C'est toutes les années 2010,
d'accord. Sur les années 2010.
C'est sur les décennies.
Alors, et donc, effectivement, Shallow en 2018.
Si t'as pas connu le siècle le dernier, mais en fait, on disait dans les années 90, tu vois, c'était de 90 jusqu'à 99.
C'est bien de l'expliquer. Et puis, les jeunes, c'est pour ça. 2010, et puis, ne contredis pas Soso, s'il te plaît.
J'aurais peut-être trouvé.
Moi, tu m'étonnes qu'elle revienne.
C'est mon retour, on va pas m'attaquer. Attention.
Alors,
et puis
les années quoi alors maintenant?
Et puis les années, attends, qu'est-ce que 2000. Les années 2020, mais est-ce que faut que je donne la bonne date du coup?
Non.
Dans les années 2020.
2020, c'est récent, très récent alors du coup.
Donc un record de 19 semaines pour le moment, mais
c'est encore
numéro 1.
Ouais,
2020.
Et ça ne me dit rien.
Ah, ok.
Je peux même pas vous aider, mes pauvres.
Il y a des cas où
on va l'écouter alors.
Je peux pas vous aider.
Ah oui.
Mais c'est une reprise.
Jérusalem.
Jérusalem remix 2020. Mais c'était quoi? C'est la reprise de quoi?
Bah, je sais pas, c'est pas une reprise, hein. J'avais l'impression d'écouter
le plus jeune dans le studio et je ne connais pas cette musique.
Ah, d'accord.
Bah, après, c'est pas mon genre de musique. Mais... que ça avait été... Moi non plus, j'aurais pas
dit. Eh bien,
que
c'est numéro 1.
Dans
les tops des ventes.
Et bah, bravo à eux.
Dans
ou
les...
à
lui. Bah,
depuis 2020 à 2024, quoi, on va dire. Mais,
Ok. Oui. Ok. Très bien.
Je suis très surprise aussi.
Bon, écoute, merci Soso de nous avoir fait revisiter ces 40 ans de top 50. Allez, dans quelques minutes, on refouillera vos tiroirs. Mais avant, on va jouer au Graal. Le Graal, c'est le podcast qui vous fait découvrir en 2 minutes des films, des séries et des musiques ce soir. C'est une série culte de 2008. À vous de découvrir. Salut, partons à la rencontre d'une série. À l'aide d'indices, vous avez 2 minutes pour en retrouver le titre. Soyez attentifs à ce que va vous raconter un des protagonistes de la série. Serez-vous le plus rapide pour découvrir le nom de cette série? C'est parti.
Écoutez, mon ami, vous savez, la vie, c'est une drôle de chose. On commence prof à enseigner aux petits génies comment changer le monde avec des réactions chimiques. Vous vous retrouvez à faire des maths, à expliquer des formules compliquées. Et tout ça. Mais vous savez, un jour, le destin, il frappe à la porte. Et il frappe fort. On se retrouve à baigner dans le monde des cristaux bleus. Vous voyez ce que je veux dire? Des cristaux qui brillent, qui vous promettent le ciel et l'enfer. Tout à la fois. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas faire un petit tour du côté obscur? Mais bien sûr, le côté obscur, c'est comme un tourbillon. On commence avec un rêve. Et puis, on plonge toujours plus profond. La série de choses incroyables qui se produisent dans ma vie, elle vous ferait tourner la tête. Il y a ce mec, Jesse, un peu paumé, mais avec un cœur d'or. Et ma femme, Skyler, elle vous laisserait sans voix. Les rebondissements, les choix difficiles, tout ça vous garde sur le fil du rasoir. Alors, mon ami, si vous voulez un voyage à travers le monde de la chimie, de la criminalité et du pouvoir, eh bien, je vous invite à prendre un petit aperçu de ma vie. Vous risquez de ne plus vouloir décrocher, parce que c'est une expérience à couper le souffle. Et qui sait, peut-être que vous aussi, vous deviendrez un génie ou un monstre. mais au moins, vous aurez vécu.
Walter White vous a-t-il fait découvrir cette série dramatique de 2008 ? Je vous laisse encore quelques secondes. Il fallait découvrir la série Breaking Bad. À bientôt pour un nouveau Graal.
Eh ben voilà, Olivier avait trouvé.
Oui,
c'est, bravo, très rapidement, c'est parfait, très bien. Bah, vous pouvez retrouver.
Il est accro à la mette.
C'est ça.
Oh, pardon, fallait pas le dire.
Vous retrouvez le Graal sur radio-g.fr, rubrique podcast, plus. Et quelquefois dans Topette, il y en a plein de nouveaux, qui viennent d'arriver, si vous voulez jouer avec nous. Vous êtes toujours dans DMT. Dans un instant, on retrouvera les chroniqueurs qui fouillent dans leur tiroir. Mais avant, on va continuer à jouer avec des séries, justement. Car dans mon tiroir, moi, j'ai retrouvé des DVD de séries. Car il fut un temps, on achetait des DVD télé de séries qu'on ne voyait jamais, évidemment. Mais c'était pour le plaisir de les avoir. Alors, je vous propose d'essayer de retrouver des séries avec leur générique. Alors, c'est assez simple. Vous pouvez jouer aussi de chez vous et nous donner la réponse en direct sur le chat de Radio G, radio-g.fr. Premier générique. Alors,
la pomme.
Voilà, Desperate Housewives. Très bien. Donc, c'est Beauté désespérée au Québec. C'est pas mal. Allez, on y va. Deuxième extrait. Dexter, oh, vous êtes trop bien, de 2006, donc série télévisée américaine, effectivement, diffusée en France en 2007 sur Canal+, puis 2010 sur TF1. Il y a même eu un jeu vidéo qui a été fait. Troisième extrait. Effectivement, c'est Buffy contre les vampires. Ok, donc c'est Buffy the Vampire Slayer, donc américaine. 144 épisodes, en environ 43 minutes. Voilà, et bien on y va pour l'autre extrait.
Ah oh, oui.
Alors,
la Casa de Papel. If I stay with you,
if I'm choosing wrong, I don't care. Donc la Casa de Papel ou la Maison de Papier au Québec.
Voilà, ah, ils ont osé.
Ils sont
même
osé.
En France, ils l'ont. Ils l'ont mis.
Voilà, diffusé en 2017 sur Netflix. Netflix qui a d'ailleurs diffusé un documentaire sur la série intitulé La Casa de Papel, le phénomène, qui indique que la première saison n'a pas été bien reçue en Espagne, où l'audimat a été très mauvais.
Sans déconner.
Ouais, ouais, ça n'a pas marché en Espagne. Voilà. Dernier extrait.
En France.
Charme, une série télévisée américaine de 178 épisodes de 42 minutes. Ça raconte les trois sœurs qui deviennent sorcières en héritant des pouvoirs transmis par leurs aïeux. Voilà, il y a eu un reboot qui n'a pas très bien marché plus tard.
Ah, voilà, si bien, alors Buffy et Charme.
Ah, oh, mais Charme, si, quand même.
C'était pas plus dans les mêmes années, ça. J'ai l'impression de regarder ça à dos, moi.
Ouais. Ok, allez, eh bien, on va rouvrir maintenant vos tiroirs. C'est reparti. On va écouter ce que vous nous avez raconté. Alors on y va, on va commencer par Olivier.
Oui, dans mon tiroir, j'ai trouvé un tube de super glue.
Super. Bravo Olivier.
Et ben, t'as réussi à ouvrir ton tiroir, t'es sûr?
Justement. Va nous faire une chronique là-dessus, toi.
Tu es resté collé au plafond, dis-moi.
Je me suis posé une question existentielle.
Ouais.
Oh, je sais.
Si la super glue colle tout, pourquoi elle ne colle pas à l'intérieur du tube?
Ah oui,
les questions paradoxales. Ah, oui.
Dis-moi, Jamy. Ah, oui. Alors ça, aucune idée, je ne sais pas.
Ben, en fait, c'est simple.
Elle n'est pas en contact avec l'air. C'est
voilà, exactement.
Ça.
La super glue, elle colle au travers d'un procédé appelé la polymérisation. Donc, pour que ce procédé fonctionne, il a besoin d'eau, et ça, il n'y en a pas dans le tube. Ah. Par contre, il y en a dans l'air. Et donc, c'est donc au travers de l'humidité que la glue s'oxyde et colle, le pot étant lui étanche.
Ah, ok,
On apprend des choses.
Ouais. Sandra.
Et ça,
c'était vraiment très intéressant.
Tout à fait. Sandra.
Alors, dans mon tiroir, j'ai retrouvé une pièce de 1 centime. Et je me suis... Voilà.
Bon, t'es pas riche, ma pauvre.
Non, j'allais dire, j'ai plus qu'une pièce de 1 centime. Et bon. Et je me suis demandé combien ça coûte à fabriquer.
Et bien, moins d'un centime.
Plus ou moins d'un centime.
Ouais, et bien, dans le cas de la pièce d'un centime, le paradoxe, c'est qu'elle coûte un peu plus cher. Elle coûte 1,2 centime.
Ah merde.
Et certains pays ont carrément décidé, du coup, de ne plus la produire pour leur marché interne. C'est-à-dire, c'est le cas de l'Irlande, la Finlande et les Pays-Bas.
Donc 72% des Européens trouvent inutiles les pièces de 1 et 2 centimes. On va dire qu'ils épargnent pas alors. C'est pas possible.
Un centime d'épargne,
c'est la question s'est posée quand même en France de savoir si on les dégageait ou pas. Hein.
Ouais. Oui. Ouais, mais qu'est-ce que ça ferait? Les pièces jaunes, il n'y en aurait plus.
Avec la Covid, le paiement dématérialisé a dépassé l'utilisation d'argent liquide, histoire d'éviter tout contact physique. C'est cet élan que les gouvernements aimeraient prolonger. En effet, la disparition des espèces, et pas seulement des centimes, réduirait le marché noir non traçable.
Ça, c'est clair. Ouais. Mais bon, d'un autre... pas pratique.
Ouais, je vois. Mais d'un autre côté, si on fait disparaître les pièces de 1 centime, il est fort à parier que les commerçants arrondissent au prix supérieur. Et du coup, on pourra parler effectivement de risque d'inflation.
Ah, bien réfléchir avant
après,
d'en...
Voilà. Bah, pour ou contre, mais moi je suis plutôt contre.
Voilà. Intéressant. Soso, tu nous parles de quoi?
Alors, dans mon tiroir, j'ai retrouvé un magazine qui parlait de la Grèce et du sirtaki.
Ah. Oh.
Et ça m'a rappelé une histoire étonnante sur cette danse. Moi, je l'ai dansé cet été, le sirtaki, sur l'île de Santorin.
Alors, c'est le mambo tout à l'heure, non?
Alors, le sirtaki, voilà, c'est la danse traditionnelle grecque, mais je suis sûre que vous ne l'avez jamais vu dans sa vraie version.
Ah bon?
Parce que finalement, ce qu'on voit maintenant, ce qu'on pratique actuellement, eh bien, c'est issu, en fait, d'une invention pour le cinéma avec le film Zorba le Grec, qui date de 64. Et du coup...
C'est pas la façon
c'est devenu plus populaire que la danse originale, finalement.
Et pourquoi ils n'ont pas pris l'original, alors?
Je vais vous expliquer pourquoi.
Ah.
Pourquoi avoir inventé une danse qui existait déjà? Eh bien, en fait, l'acteur principal qui jouait dans le film Zorba le Grec, Anthony Quinn, s'est foulé la cheville lors du tournage. Donc, il n'a pas pu faire les sauts de la chorégraphie originale. Ce qui fait que le jour de la scène de danse, ils ont changé les pas en urgence.
Non.
Et finalement, maintenant, ce qu'on voit, c'est issu de ce film. Et plus finalement le folklore original du sirtaki.
D'accord.
Ah oui, en Grèce,
voilà. À l'origine.
En Grèce, ils dansent quand même.
Ce qui perdure, semble-t-il.
Ah oui. Ils doivent faire les deux, évidemment. Mais
c'est la danse issue du film Zorba le Grec, et plus la danse traditionnelle.
C'est dingue, ça.
Sirtaki, avec sûrement des sauts plus spectaculaires.
Joe, qu'as-tu dans ton tiroir? Alors, tiens, c'est intéressant pour eux.
C'était vraiment très intéressant.
Oui. Alors, moi, je t'avais dit, mais j'ai plus rien dans mon tiroir.
Ah, c'est la petite feuille?
Ben, la petite feuille, c'était ma chronique de tout à l'heure.
Celle que je t'ai donnée?
Ah, pardon, celle-ci, oui, effectivement. Alors, dans mon tiroir. J'ai retrouvé une feuille de mon ancienne chronique. Voilà, je ne vous l'ai jamais dit, mais voilà.
D'accord, vas-y.
J'ai retrouvé la note plutôt salée du dernier restaurant où je suis allé et dont je tairai le nom.
Évidemment.
Ah bon?
On veut savoir.
Seul le dessert était un peu plus sucré, pour info. Alors, c'était une pêche Melba.
Ah, c'est bon, ça.
Je me suis demandé d'où venait ce nom, Melba. Alors, c'était il y a à peu près 130 ans environ à Londres. Il y a une cantatrice qui invite un restaurateur à venir la voir à son concert au Covent Garden. Dans cet opéra de Richard Wagner, apparaît un cygne. Cette scène particulière a marqué le restaurateur. Alors, le lendemain, pour remercier la chanteuse de lui avoir fait découvrir ce beau spectacle, il crée un dessert inspiré de ce qu'il a vu. Ce dessert y représentait à l'origine deux ailes de cygne en glace, le tout dans une coupelle d'argent remplie de sorbet à la vanille sur lequel sont posées des demi-pêches recouvertes de coulis de framboise et d'un peu de sucre.
Trop,
oui, vous ne sentez
trop
barré
trop
à travers le micro. Ce dessert s'appelle la pêche au cygne, mais sera renommé Pêche Melba en 1899 en hommage à la chanteuse qui a inspiré Auguste Escoffier, le restaurateur. Elle s'appelait en effet Nelly Melba.
Ah, c'est le nom de la chanteuse. D'accord. Ok. Bon, on aura appris beaucoup de choses en tout cas. Allez, c'est intéressant, vas-y.
C'est vraiment très intéressant.
T'avais une petite chose, tu m'as dit tout à l'heure.
T'as pas d'autres.
Ah non, j'ai pas d'autres. Vas-y.
Alors, bon.
Attention, elle remet son casque pour savoir.
Non, en fait, j'ai pas besoin de mettre mon casque.
Non, c'est pas une émission de radio.
Pour mieux réfléchir. En attendant, un petit bonjour à Nico qui nous écoute, qui a mis un petit message sur le chat. Vous pouvez nous parler en direct sur radio-g.fr.
Alors après les chats, je vais vous parler des chiens.
Oh, super.
Que vous aimez toujours les animaux.
D'accord, alors c'est l'année du chien.
Dans mon tiroir, en fait, j'ai trouvé un article très étonnant qui m'a interpellée. Et en lisant cet article, je me suis aperçue que ça faisait fureur sur TikTok.
Ah.
Et en fait, il s'agit d'un bouton à presser qui serait capable de faire parler votre chien. Vous connaissez?
Ah bon?
Oui, effectivement. Ouais, ça ne fait pas parler, mais oui, ok, d'accord.
Le chien réagit au son.
Exactement.
Que ça
alors,
fait.
Comment ça fonctionne? C'est un bouton de communication, ça s'appelle, de différentes couleurs que l'on fixe sur un tapis pour pas qu'il glisse quand le chien va taper dessus, quoi.
Ouais.
Et il faut associer un mot au bouton, en fait, comme jouer, sortir, manger. Et par rapport au bouton, en fait, il y aura un mot.
Oui.
Et du coup, vous allez apprendre à votre chien ou à votre chat.
Un genre de réflexe de Pavlov, un peu, pour qu'à chaque fois qu'il entend ça, il fasse
exactement,
le truc.
Exactement. En fait, d'accord. Un bouton, on va dire, pour être plus précis, ça va représenter un son. Et le son, du coup, va représenter un mot pour nous. Mais pour le chien, ça va représenter plutôt un son. Et le son va représenter une action.
Oui, il va l'associer à la nourriture.
Ouais,
oui,
il va plutôt l'associer à une action qu'à un mot, si vous préférez.
Oui, d'accord.
Mais donc, ça va être le mot, mais en fait, on peut aussi lui faire complètement dire des phrases.
Quand il a envie de sortir ou de jouer, il va taper sur.
Ah oui, c'est donc ça, bleu, rouge, orange, vert, ça veut dire je veux sortir.
Alors, du coup,
c'est ça, exactement.
Chez les personnes.
C'est un clavier, en fait.
C'est un clavier.
C'est lui qui tape.
C'est lui qui tape quand il veut quelque chose.
Ah la vache, d'accord.
En fait, il va avoir de la place quand même, parce qu'en fait, c'est.
Plus ton chien est bavard, plus il prend tout le salon.
Tu peux prendre un bouton, deux boutons, mais tu peux aussi prendre plein. Ça fait comme un clavier.
Et t'associes à plein de choses.
Et après, le chien. Le chat aussi, mais c'est plus difficile. Mais ouais. Peut taper et créer en fait une phrase.
Incroyable.
Donc en fait, ça a beaucoup de succès. Et en 2019, c'est une orthophoniste américaine qui a eu l'idée de faire apprendre des mots et des phrases à son chien. Ça provient un peu du système de langage. Ça a été emprunté aux autistes en fait.
D'accord.
Donc, cette orthophoniste américaine, elle s'appelle Christina Unger. Et elle compte 778 000 abonnés sur Instagram. Et vous avez sur TikTok, Alexis Devine, américaine aussi. Mm-hmm. 8 millions d'abonnés.
D'accord.
Sur TikTok.
Et
avec
qui parle de
un
ça.
Chien. Ouais, voilà.
Et
qui
on
monte
voit
les vidéos.
De
voilà,
comment on
c'est
fait,
ça.
Etc.
Exactement.
Bah écoute. Très bien. Bah, c'est, on a appris quelque chose.
Je vais pas terminer parce que en fait, le chien peut aussi communiquer à distance. C'est-à-dire si vous êtes absent,
il t'appelle au téléphone.
Eh bien, t'as une notification sur ton smartphone.
Alors
j'allais dire, c'est super parce que à la fois on se dit, je peux comprendre mon chien mieux qu'avant. Mais au pire, on peut en faire aussi votre nouvelle alarme anti-vol.
Ouais, c'est sûr. Enfin bon,
cambriolage.
Déjà le chat déjà toutes les 5 minutes, il t'embête pour sortir. T'imagines, même quand t'es pas là, il dit je vous ouvre la fenêtre. Non, c'est pas possible.
Après, beaucoup d'éducateurs canins, c'est un peu controversé quand même, parce qu'en fait, comme on dit, c'est le bouton qui représente un son. Et donc une action, mais on peut mal interpréter aussi, tout simplement.
D'accord, il peut jouer aussi, faire ça.
Voilà, ouais, on peut mal interpréter aussi.
On va lui sortir la gamelle alors que lui, il a envie de jouer.
C'est ça, ça peut faire des frustrations aussi à l'animal.
Très vite, on veut parler de... on aimerait quelque chose d'encore plus compliqué, du conceptuel. Et il y a un bouton, par exemple, qui représente « je t'aime ». Et un bouton qui représente
ça
câlin.
Ça marche pas.
Et on se demande comment il peut vraiment différencier les deux.
Pas d'anthropomorphisme, effectivement.
Voilà.
Très bien.
Bon, voilà, j'étais pas au courant, mais c'était.
C'est intéressant.
Ouais. C'était vraiment très intéressant.
Allez, du coup, on va rejouer maintenant. On va se faire un petit nouveau grol. Allez, hop, c'est parti. On va parler de cinéma français. C'est un film culte.
Ah non, pas de cinéma.
Jouez avec nous sur le chat radio-g.fr en nous donnant vite la réponse.
Salut, partons à la rencontre d'un film. À l'aide d'indices, vous avez 2 minutes pour en retrouver le titre. Soyez attentifs à ce que va vous raconter la voix clonée d'un des comédiens du film. Serez-vous le plus rapide pour découvrir le nom de ce film ? C'est parti !
Eh bien, mes amis, laissez-moi vous conter une histoire qui a fait beaucoup rire, malgré un contexte triste. Imaginez-vous dans le Paris de l'Occupation, où mon acolyte, ce bon vieux compagnon de galère, et moi... Nous nous sommes retrouvés mêlés à une véritable péripétie à laquelle personne n'était préparé. Ah, c'était une époque où le moindre pas de travers pouvait vous mettre dans de beaux draps. Et nous, eh bien, disons que nous étions spécialistes dans l'art de nous fourrer dans des situations particulières. Alors nous nous sommes aventurés dans les coins les plus improbables de Paris. Ah, la magie de la clandestinité. Mais ce qui était le plus drôle, c'était que malgré tous les ennuis, les rires ne nous ont jamais quittés. Chaque coin de rue devenait un décor de comédie, avec des policiers débordés et des gardes britanniques un peu trop suspicieux. Comme quoi, on peut rire de tout, même du pire.
Avez-vous trouvé le nom de ce film avec Bourvil et De Funès, aux presque 18 millions d'entrées ? Je vous laisse encore quelques instants pour trouver. « fallait retrouver le film La Grande Vadrouille, avec ici la voix clonée de Bourville. A bientôt pour un nouveau Graal.
Il n'y a pas d'hélice, hélas.
C'est là qu'est l'os.
Ah, c'est sympa, ces petits clonages. Il y a encore des petites intonations hein, quand même qu'on revoit.
C'est que le début, quoi.
Ouais. C'est le moment de la chanson improbable. Alors j'explique à Soso. À chaque émission, on a une chanson improbable. Un truc, on se dit comment on a pu écouter ça,
comment on a pu le mettre au top 50, comment c'est arrivé, par où,
qui s'est inventé ça, etc. Alors cette fois-ci, c'est un remix fait à partir d'un film, en prenant les dialogues du film. C'est un long métrage. C'est le long métrage, c'est Les Visiteurs. Et le titre, c'est OK. Voilà, c'est ça. Voilà, à vous de nous dire si c'est aussi OK sur le chat, si vous voulez. Donc voici la chanson improbable du jour.
On va pas faire entièrement tout le OK quand même.
Allez, c'est la fin de ce numéro de Dans mon tiroir, l'émission qui vous donne le pouvoir. Merci aux chroniqueurs du soir. Merci à Joe qui a réalisé cette émission.
Merci à toi, Bruno.
Merci, Olivier.
Merci.
Merci, Sandra, qui repart avec son petit chat.
Oui.
Et merci, Soso. Ouais. Merci. Le grand retour. Bravo, Soso. Bon, tu reviens, Soso. Hein. Tu reviens un peu, tu nous fais des jeux avec des musiques et
ouais,
tout à découvrir.
C'est très chouette.
Hein, c'est bien.
La chanson, en plus, elle chante bien, celui-là.
Et en plus,
ça vous manquait que je chante. Oui. C'est vrai. C'est ça, en
quelquefois, je peux te raconter rapidement, effectivement, là, quand on a connu Soso, à un moment donné, on a eu un problème de PC. Vrai. On n'avait plus de chansons et il n'y avait plus rien. Et elle a fait toutes les plages musicales de l'émission. Elle a chanté pendant l'émission.
Et ensuite, ils m'ont appelé.
Et après, on l'a rappelé. Bah oui, forcément. Allez, on rappelle justement, Soso, que tu vas animer également en juin l'émission Radio Vision, le concours de chansons.
2024.
Donc, si vous êtes chanteur, chanteuse, groupe, et que vous voulez participer, c'est gratuit. Vous allez sur le site radiovision.fr et vous vous inscrivez. Et puis, on pourra voter au mois de juin. Le public pourra voter, Le public pourra voter. Et puis, il y aura un jury qui votera également. Et mi-juin, on se retrouvera pour la grande finale, le grand concert.
Fait.
Voilà. Allez, on va se quitter dans un instant sur Julien. Alors, non pas le programmateur musical de la radio, hein, mais Julien Libre, avec son premier titre, c'est La Starac. Voilà. Vous allez voir que ça fait un petit peu Brel, c'est un peu c'est assez sympathique.
C'est une Brel quand même.
Non, comment tu dis toi?
Jacques.
Allez, on se retrouve quand vous voulez sur le site radio-g.fr et n'oubliez pas, avec Dans mon tiroir, vous avez le
pouvoir.
Je m'appelle Julien et toi, pas grand chose à dire. Je suis ce gars que tu vois pas venir, qu'aime rire et pleurer, qu'aime pleurer de rire, comme tout le monde. Ma vie, j'aimerais la repeindre, mais je ne suis pas à plaindre. Là-bas dans mon coin, y a de l'amour à revendre. Bien sûr j'ai des chagrins, bien sûr j'ai la peau tendre, comme tout le monde. La nuit, je regarde les étoiles, ça me fait peur, car je sais que les étoiles, ça brille et puis ça meurt, ça file et ça se perd. Moi je vis pour ce qui fait chavirer les cœurs, comme tout le monde, comme tout le monde, comme tout le monde. Un peu de lumière, un peu d'ombre. J'étais ce gars timide qui regardait ailleurs, qui rêvait pas d'île, mais de noyer ses peurs. J'étais fragile, les yeux un peu menteurs, comme tout le monde. La nuit, je partais dans mes rêves. Pendant des heures, je me faisais de grands films où c'était moi l'acteur, où c'était moi la vedette. Je me réveillais en sueur, comme tout le monde.
Radio G 101.5 FM.